Reporters, le journal de ma vie. Une collection à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture vous propose de redécouvrir cette émission.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de la notion d'espace cette semaine et aujourd'hui de la capacité à partager un espace commun. Politiquement, comment cela se passe-t-il ? L'espace public, tout le monde veut sa part, c'est le titre de cet épisode. C'était une magnifique idée du philosophe Emmanuel Kant, déployée dans un texte majeur, un article de 1784, publié dans le Berlinischer Monatsschrift, journal allemand qui avait organisé un petit jeu comme on les aimait au temps des Lumières. Qui de nos lecteurs saura dire ce que signifient les Lumières ? Aufklärung en allemand, la meilleure réponse sera publiée. Eh bien, c'est Kant qui l'a emporté. Et là, dans ce texte, Kant définit les Lumières comme un processus qui permet au plus grand nombre d'individus possible de sortir de ce qu'il appelle l'état de tutelle. Cet état où on n'ose pas penser par soi-même et où on s'en remet sans arrêt pour juger à des tuteurs divers, médecins de famille, prêtres, maris pour les épouses. Ce qu'il faut, précise Kant, pour favoriser le courage de penser par soi-même, qui est si rare, c'est qu'un peuple ait le droit de s'exprimer en public. Comme cela, les plus audacieux donneront l'exemple aux plus frileux. La publicité des opinions, Öffentlichkeit, stimulera tout le monde et aidera, par un échange visible, la victoire progressive des jugements les plus rationnels. Que Frédéric II de Prusse entende bien, et Kant s'adresse à lui dans ce texte, puisqu'il se dit roi éclairé, qu'il donne la liberté de presse à son peuple. La leçon ne sera pas entendue par Frédéric II, mais elle le sera par toutes les pensées qui réfléchissent depuis aux vertus, mais peut-être aussi aux limites de cette notion de publicité ou d'espace public. Vraiment, avoir chacun également le droit de s'exprimer en public suffirait à nous faire partager un authentique débat dans le respect constant de cette égalité et de la pluralité des opinions. L'encre a coulé depuis Kant, même si celui-ci demeure un magistral point de départ pour réfléchir à l'espace public. Bonjour Maïle Kant.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie allemande moderne à l'Université Lyon 3, spécialiste d'Emmanuel Kant. Bonjour Clotilde Nouette.
Bonjour.
Vous êtes assistant professeur en philosophie sociale et politique à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Rabat, au Maroc. Et vous connaissez bien la pensée du philosophe allemand contemporain Jürgen Habermas, qui a prolongé Kant dans cette réflexion sur l'espace public. Et bonjour Alexander Neumann.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris 8, philosophe et sociologue, bon connaisseur de la théorie critique de l'école de Francfort, et vous savez à quel point Habermas, en définitive, s'est coupé de l'esprit de la première génération des penseurs de Francfort, celle d'Adorno et de Marcuse. Vous avez contribué à faire connaître en France une pensée concurrente à celle de Habermas, et peut-être plus Francfort, si j'ose dire, celle du philosophe allemand du XXe siècle, Oskar Necht, dont plusieurs textes, écrits avec Alexander Kluge, ont été traduits par vous et rassemblés sous le titre « L'espace public oppositionnel », publié par Miguel Abinsour en 2007, dans sa collection Critique de la politique, qui est une collection à l'époque hébergée chez Payot et désormais chez Klingsic. Alors j'ai dit que Kant était un point de départ magistral pour penser l'idée d'espace public. Logiquement, nous commençons par un extrait de son texte fameux de 1784.
Il est difficile à un homme pris individuellement de s'arracher à l'état de tutelle devenu pour lui une seconde nature. Aussi peu nombreux sont ceux qui ont réussi à s'arracher par le propre travail de leur esprit de l'état de tutelle et à marcher malgré tout d'un pas assuré. Mais qu'un public s'éclaire lui-même est plus probable. Cela même est presque inévitable pourvu qu'on lui accorde la liberté. Car il se trouvera toujours quelques êtres pensants par eux-mêmes pour rejeter eux-mêmes le joug de l'état de tutelle et propager ensuite autour d'eux l'esprit d'une appréciation raisonnable de la valeur propre de tout homme, ainsi que sa vocation à penser par soi-même. Mais pour ces Lumières, il n'est rien requis d'autre que la liberté, et la plus inoffensive parmi tous ce qu'on nomme liberté, à savoir celle de faire un usage public de sa raison sous les rapports. L'usage public de sa raison doit toujours être libre, et il est seul à pouvoir apporter les lumières parmi les hommes. Je comprends par usage public de sa raison celui qu'en fait quelqu'un en tant que savant devant l'ensemble du public qui lit.
Les monarques, dans l'histoire, ceux qui ont peur, et ils sont nombreux, qu'un peuple parle librement, souvent pensent et disent mais que le peuple n'a qu'à s'éclairer d'abord et puis après je lui donnerai la parole. Eh bien Kant, là, Maëlle-Kant, semble-t-il, dit l'inverse. Si vous voulez qu'un peuple s'éclaire, c'est le processus inverse. Il faut qu'il ait le droit de s'exprimer librement. Il y aura peut-être des bêtises qui seront dites au départ, mais c'est le processus le plus efficace pour atteindre quelque chose qu'il appelle la rationalité du jugement.
Oui, tout à fait. La définition que Kant nous donne du public instruit, ou comme on traduit parfois du public cultivé, aufgeklärtes Publikum, a pour vocation de fonder la conception des Lumières, la conception de l'Aufklärung chez Kant. Mais peut-être pouvons-nous rappeler qu'avant ce texte de 1784, donc Vasit Aufklärung, Kant a déjà aborder la question de l'espace proprement dit, avant de traiter d'un espace métaphorique, d'un espace au sens abstrait ou figuré, comme espace de partage, de co-appartenance, d'échange dynamique. Il a d'abord, dans la critique de la raison pure, théorisé l'espace en 1781 comme, la définition en est bien connue, forme a priori de la sensibilité du sujet. Ça, c'était dans le chapitre de l'esthétique transcendantale. Et il a également, en 1781, c'est la deuxième toile de fond qu'on peut ici rappeler, réfléchi à la notion d'espace, de temps et de simultanéité. Et il a essayé de corréler ces trois notions d'une façon d'ailleurs assez différente de Leibniz, puisque Leibniz définissait l'espace comme un ordre de coexistence simultanée des choses, là où Kant, au contraire, va tirer l'espace du côté, ou la simultanéité, plus exactement, du côté du temps. Et ici, fort donc de cette double théorie de l'espace, du temps et de la simultanéité de 81, Kant s'efforce de penser à un espace métaphorique qu'il appelle précisément le public cultivé ou instruit.
En même temps, je suis désolée, mais le mot cultivé et instruit n'est pas dans le texte de 84. Et justement, ce qui fait peut-être que ce texte est unique, c'est qu'il dit le peuple doit devenir un public. Tout le monde doit en être, c'est incroyablement inclusif, puisque c'est précisément le moyen pour devenir cultivé et instruit et rationnel. Donc ça c'est peut-être, n'est-ce pas, le texte qui résume toute la pensée de Kant, mais c'est un texte ovni d'une certaine façon, un texte fou par rapport à, ou précaution qu'il a pu mettre par ailleurs. N'importe qui doit pouvoir parler, il faut que ce soit possible pour que, collectivement, de la raison émerge.
Oui, tout à fait. C'est un texte ambitieux, radical, qui vise à accorder la plus grande liberté, si ce n'est d'expression, du moins de pensée, au plus grand nombre de personnes. Mais néanmoins, c'est un texte qui reste ambigu dans la définition qu'il donne de ce public. Car le public englobe en réalité plusieurs strates qui s'imbriquent l'une dans l'autre de façon complexe. Il y a d'abord le public instruit au sens des érudits, des savants, on appellerait aujourd'hui les experts, les spécialistes, qui ont une reconnaissance, une compétence reconnue institutionnellement, mais c'est aussi, plus largement, le public qui est cultivé de façon minimale, qui correspond à la figure de l'honnête homme du XVIIe siècle, c'est-à-dire l'ensemble des hommes et des femmes qui font un usage public de leur raison, qui savent lire et écrire.
C'est sûr que le seul support possible à l'époque, c'est l'écrit. Donc, de facto, ça limite.
C'est la seule
limite. La portée du texte, on dit quand même beaucoup de commentateurs, Arendt, Michel Foucault, et va très au-delà. Il y a deux exemples qui sont donnés qui sont incroyables dans ce texte. On voit bien que c'est vraiment n'importe qui doit pouvoir parler. Il dit par exemple qu'un soldat qui reçoit des ordres qui lui paraissent non rationnels, évidemment dans l'instant, doit obéir, sinon il n'y a plus de société possible. Mais il doit avoir le droit, par ailleurs, et là il dit en tant que savant, mais ça veut dire en tant que quelqu'un qui se montre sage, sapere en latin, il dit là, il doit pouvoir dire a posteriori, ses ordres, il y a un problème. Ce qui est incroyable, parce que même aujourd'hui, je ne crois pas que les soldats aient ce droit, même dans les démocraties, de manière aussi simple que le dit Kant. Il dit aussi qu'un contribuable qui n'aime pas, qui trouve la loi fiscale est injuste, doit évidemment payer ses impôts. mais il doit avoir le droit de dire que la loi fiscale est injuste,
oui,
publiquement.
Kant cite trois exemples, effectivement, celui du soldat, celui du contribuable qui doit payer ses impôts, et le troisième exemple, c'est celui du prêtre, qui est lié par contrat à une église qui le rémunère et qui est tenu de divulguer l'orthodoxie de l'église qu'il représente. Et il dit dans ces trois cas, et on pourrait en citer d'autres exemples, les hommes doivent bien faire le départ entre la partie privé ou l'usage privé de leur raison, celui qu'ils font dans les limites de leur métier ou dans le contexte professionnel qui est le sien, et par ailleurs, l'homme éclairé, et c'est pas forcément le savant, mais l'homme éclairé que ces trois hommes peuvent être, et qui, là, jouit d'une liberté infinie de penser, et qui peut critiquer, y compris la hiérarchie militaire, la hiérarchie de l'administration fiscale, ou la hiérarchie dont il dépend dans son métier. Mais néanmoins, Kant reste partagé sur cette notion de public entre une version plus intellectualiste, peut-être plus élitiste,
dans d'autres
des érudits, dans d'autres textes, voilà. Et ici, cette percée que vous avez bien soulignée, où effectivement, il ouvre le public cultivé ou instruit à une dynamique qui est celle de la diffusion des Lumières jusque dans toutes les strates du peuple.
Alors, puisque le soldat, le contribuable et le prêtre en exercice doivent obéir à leur rôle, tout en pouvant s'exprimer ailleurs s'il le souhaite, il y a cette formule qui est censée rassurer un peu Frédéric II, le roi de Prusse. Il dit, parce qu'il l'a dit deux fois dans le texte Kant, « Raisonnez autant que vous voulez et sur ce que vous voulez », ce qui montre qu'il n'y a pas de restriction d'objet, « mais obéissez ». Ça veut dire, nous, ça nous paraît un peu impératif, un peu dur comme formule, mais évidemment que ça rassure un roi, de façon de lui dire, tu sais, t'inquiète pas, les gens ils peuvent causer, mais ils vont obéir. On peut imaginer cette chose-là où on obéit, mais par ailleurs on commente. Et c'est cette idée qui fait tellement peur à plein de monarques, n'est-ce pas, Maëlle Kant?
Oui, la liberté de penser, elle reste un droit et même un devoir, dit Kant. Il y a toujours ces deux volets qui s'articulent l'un à l'autre, le droit et le devoir. C'est un droit inaliénable, c'est un droit et un devoir absolu que même les monarques, enfin tous les souverains doivent respecter. Et cette liberté de penser, elle est articulée à une liberté dans une moindre mesure qui est une liberté d'expression. Mais dans tous les cas de figure, Kant nous dit, cette liberté de penser qui est infinie, à partir du moment où elle s'exprime dans l'espace et selon les règles de l'espace public, c'est-à-dire fondée sur un usage public de notre raison, cette liberté de penser, elle est l'unique palladium des droits du peuple. C'est l'expression qu'il utilise, qui est une expression là encore imagée, en référence avec le palladium qui était une statue d'Athéna et qui était un objet sacré, magique, divin, censé protéger la cité. Ce que veut dire Kant par cette métaphore de l'unique palladium du droit des peuples, c'est qu'au fond, la liberté de penser est, dans une moindre mesure, la liberté d'expression, lorsqu'elle est infinie, et elle peut l'être justement dans et par le public, cette liberté de penser, elle garantit tous les autres droits. Tous les droits civiques sont dérivés de ce droit fondamental et originaire.
Alors une radicalité qui a quand même fait peur au roi de Prusse, Clotilde Nouette, et aux philosophes, parce qu'avant Kant, à part le dernier chapitre du traité théologico-politique de Spinoza sur la liberté d'expression, Spinoza qui est un repoussoir pour les philosophes allemands de la fin du 18e, on n'a pas tellement envie d'être assimilé à Spinoza, personne n'avait dit des choses pareilles, on devait obéir aux ordres et aux lois, mais qu'on pouvait les commenter en pleine liberté. Kant fait ça, et derrière lui, beaucoup de gens vont dire que là, c'est créé philosophiquement quelque chose de très important, la véritable idée de l'espace public, et en particulier Jürgen Habermas au 20e siècle. Pouvez-vous nous en dire un mot? Qui est toujours Jürgen Habermas, mais son grand texte, qui fort heureusement a été traduit en français, l'espace public, parce que si on prend le sous-titre allemand, c'est structure de, enfin c'est très très compliqué, donc le titre.
Strukturwandel der Öffentlichkeit.
Voilà. Habermas en 62 écrit un texte qui, à certains égards, est un hommage à Kant. Expliquez-nous.
Oui, alors effectivement, Habermas, peut-être juste deux mots biographiques, c'est un philosophe allemand contemporain. Il est né en 1929, il est toujours vivant. Et en 1962, il publie sa thèse d'habilitation, donc Strukturwandel der Öffentlichkeit, qui en fait veut dire transformation structurelle de l'espace public, de la publicité. Et dans cette thèse, il reconnaît effectivement à Kant le mérite immense d'avoir fait de la publicité, de l'espace public, un concept centrale pour la philosophie politique moderne et d'avoir reconnu, surtout d'avoir porté à un niveau spéculatif un peu inédit, l'importance de ce mot d'ordre, le mot d'ordre un petit peu de la bourgeoisie libérale et révolutionnaire des sociétés européennes modernes.
Alors, il écrit un livre donc, qui d'abord décrit l'espace public de 1962, décrit l'ambiance du XVIIIe siècle européen. C'est presque une phénoménologie, disent les philosophes, une description analytique du monde des salons, des débuts de la presse. Et c'est vrai qu'il parle là d'une société bourgeoise, mais peut-être qu'il faut faire un peu attention. Marx a donné à ce mot bourgeois une connotation très particulière. Bourgeois, en allemand, c'est bürgerliche Gesellschaft, la société bourgeoise. Ça veut dire la société des bourgs, un peu ce que les Anglais appellent la société civile. C'est-à-dire les gens qui travaillent dans l'industrie naissante, dans le commerce, les gens qui n'ont pas des charges d'État. Ce n'est que cela, finalement, au départ, la société bourgeoise. Et c'est celle qui, en Angleterre, un peu en Allemagne, enfin, ça va être assez compliqué, la liberté d'expression, les journaux en Allemagne, ils vont mettre du temps. D'ailleurs, Marx reprendra le combat de Kant et va échouer également. Mais c'est tout un monde. Racontez-nous
ça. Et je pense que c'est effectivement très important d'insister, comme vous le faites, sur le fait que l'espace public bourgeois, aujourd'hui on associe bourgeois à un certain type de code, à un certain type de classe sociale qu'on oppose aux classes populaires. Mais bourgeois, dans le sens que Habermas lui prête dans cet ouvrage, en fait, au départ, ce sont précisément, comme vous l'avez dit, c'est tous les individus qui, pour lui, issus de la société civile, se sont constitués comme un vis-à-vis critique à l'égard des décisions du pouvoir. Mmh. Et les premières contestations publiques, nous dit-il, sont issues des discussions sur les taxes, sur la critique des lois fiscales, la critique des prix, etc. Et donc c'est intéressant en fait de voir que finalement on associe beaucoup l'espace public à l'espace des salons. Alors que
il y a aussi des cafés,
effectivement. Alors qu'il y a en fait ce peuple, voilà, commerçant, boutiquier, qui finalement dans sa critique en fait de certaines décisions du pouvoir va faire émerger une revendication de publicité et de face-à-face critique.
Donc publicité, ça n'a rien à voir avec le sens actuel de la pub, c'est Öffentlichkeit qui a l'idée d'ouverture et vraiment. Ça crée un espace public commun de tous ces gens des bourgs.
Oui.
Il y croit. Finalement, Habermas le décrit même comme pour appliquer les idéaux kantiens.
Oui, alors c'est l'ouverture. Et puis ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très important, puisque au départ, on a un petit peu évoqué hein, ces deux sens de l'espace public, l'espace au sens topologique, mais il y a aussi l'espace... Alors, on a utilisé le terme de métaphorique, mais peut-être chez Habermas, ce qui importe, c'est vraiment le fait que c'est un système de relations. Et ces relations, elles sont liées à la communication. Donc, en fait, ce qui émerge avec, justement, l'espace public moderne, c'est un système de relations entre les individus qui a pour caractéristique qu'elles passent par un certain type de communication, un certain type d'interaction. Et ces interactions, elles se font dans le langage et dans l'usage d'une raison argumentée, discursive, etc.
Et il y a un mot qui sort très vite chez Habermas, qui est un mot plus du XXe siècle dans la manière de penser ces questions, c'est le mot de délibération. Finalement, il y a une sorte de délibération publique qui se fait, mine de rien, de salon en café, en lecture de journaux, dans cette ambiance des Lumières. Je vous propose d'écouter un texte de Habermas qui en parle, qui semble assez fidèle à Kant, même si on va se permettre de commenter en toute liberté. Il s'agit d'un texte de 2004, mais il y a beaucoup de textes qu'on aurait pu prendre de Habermas. Écoutez.
Le phénomène général de l'espace public, que les interactions les plus simples suffisent à créer, m'avait toujours intéressé, sous l'angle notamment de ce pouvoir mystérieux que possède l'intersubjectivité d'unir ce qui est différent sans pour autant nécessairement aplanir ces différences. Il est possible, à partir des espaces publics, de déchiffrer les structures de l'intégration sociale. C'est dans la constitution des espaces publics que les traits anomiques annonçant la dislocation ou révélant les failles d'une communautarisation répressive peuvent être le plus sûrement discernés. Dans les conditions qui sont celles des sociétés modernes, l'espace public politique, spécifique aux entités démocratiques communes étatique, infra ou supra-étatique, revêtent en particulier une signification symptomatique eu égard à l'intégration sociale. Les sociétés complexes ne peuvent plus se souder qu'en recourant entre leurs citoyens à une solidarité abstraite et médiatisée par le droit. Or, entre des citoyens qui ne peuvent plus tous se connaître personnellement, le seul moyen de créer et de reproduire une communauté, même fragile, est d'entrer dans le processus permettant de former une opinion et une volonté publique. L'espace public politique est donc le cœur d'une démocratie, et c'est en l'auscultant, en tâtant son pouls, qu'on peut juger de son état.
Dans ce texte, Clotilde Nouette, Habermas montre qu'il est conscient d'un problème. C'est que même si de droit, tout le monde peut participer à cette grande délibération, c'est ce que souhaitait Kant et ce que souhaite Habermas, dans les faits, tout le monde n'est pas aussi bien intégré. Est-ce que c'est dû, pour Habermas, aux moyens de communication, la presse de facto exclut ceux qui ne savent pas lire. Enfin, il faut quand même rappeler que pendant la Révolution française, les journaux ont été lus dans la rue aussi, justement, pour ceux qui ne savaient pas lire. Mais par ailleurs, quelle est la nature de l'inquiétude à la fin de ce livre de 1962, qui était sa thèse d'habilitation? Quelle est l'inquiétude exacte, Clotilde Nouette, de Habermas sur ce sujet?
Oui, alors vous avez tout à fait raison de pointer le fait que dans le texte, on voit bien se jouer cette inquiétude quant à ce qu'il appelle les failles d'une communautarisation répressive.
Alors, moi, je ne suis pas sûre de bien comprendre, mais je ne vous cache pas que Habermas est quand même parfois un peu compliqué.
Difficile à lire, le style est assez aride parfois. Alors effectivement, les failles d'une communautarisation répressive. En fait, il fait référence à l'idée que finalement, la communication, d'une certaine façon, un certain nombre de principes qu'on estime, que lui estime en tout cas impliqués dans la pratique du langage. Si nous parlons les uns avec les autres, c'est qu'en droit, nous souhaitons nous entendre sur des significations communes, mais aussi sur des normes communes. Et ce faisant, nous présupposons un certain système de prétention à la validité, comme il les appelle. C'est-à-dire, nous voulons dire des choses vraies sur le monde, nous voulons dire des choses justes en termes normatifs, et nous voulons dire des choses authentiques sur ce qui nous concerne. Mais évidemment, dans les faits, dans la vie de tous les jours et dans les sociétés telles qu'elles existent, la communication ne répond pas nécessairement à ces principes. Elle se situe dans une zone grise dans laquelle il y a des malentendus, mais aussi des rapports de domination qui se dissimulent à travers parfois des interactions qui, en apparence, ont l'air égalitaires. Et donc c'est cela, en fait, qu'Habermas met ici en question.
Oui, alors là, on arrive au problème des médias. Et donc, je vous fais part d'une de mes plus grandes surprises depuis longtemps, mais je suis obligée de m'y résoudre. Habermas pense que le travail qui a quand même permis à beaucoup plus de gens de lire des journaux, qui s'appelle la révolution de la presse d'information de masse de la fin du 19e siècle, avec ses défauts, mais aussi avec ses qualités qu'il ne reconnaît à peu près jamais, c'est pour lui un danger. En fait, les médias de masse n'ont en rien corriger le problème. Il s'intéresse pas, par exemple, aux aspects narratifs du reportage naissant. Il est très sévère sur la deuxième révolution de la presse, après l'acquisition de la liberté, la deuxième révolution de la presse, le reportage, la presse de masse, sur d'autres supports. Il est inquiet. Pourquoi est-il si inquiet?
Alors, bon, je serais peut-être un tout petit peu plus nuancée, au sens où, finalement, il reconnaît aussi ses mérites. Il reconnaît ses mérites à ce qu'il appelle l'espace public anarchique, celui qui, en fait, justement, même s'il ne répond pas toujours au principe de la communication qui se ferait dans une situation idéale de parole, permet en fait à des opinions parfois inédites de se former, et donc tout cela il le reconnaît, mais c'est vrai qu'il est inquiet par rapport à l'infrastructure économique des médias, et notamment par rapport à la question de savoir en fait qui contrôle économiquement les médias, et dans quelle mesure est-ce qu'on peut encore avoir des médias démocratiques lorsqu'il y a des monopoles qui sont exercés par certains, et que du coup forcément la liberté de pensée, d'opinion, d'expression, elle est potentiellement menacée par ces rapports de pouvoir économique.
Alors on va entendre, avant de passer à Oscar Necht, qui est un personnage très intéressant et très méconnu en France, qui a été l'assistant de Habermas et qui va développer une autre théorie, l'espace public, et posant tous ces problèmes, je voudrais qu'on entende une philosophe contemporaine, un personnage majeur de la philosophie américaine, notamment de la New School for Social Research à New York, Nancy Fraser, qui, elle, fait une remarque sur les médias d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai, quand on l'écoute, vous allez voir, on a presque le regret de la presse de masse qui au moins touchait tout le monde. Là, a posteriori, on se dit que le pire était peut-être à venir en termes de fragmentation de l'opinion, des petites bulles, etc. Écoutez-la.
Now, in this age of digital media,
maintenant, à l'âge des médias numériques, nous avons la situation paradoxale de cette technologie fantastique qui nous permet de communiquer à longue distance, quasiment en temps réel. Le potentiel est énorme.
But at the same time, in many countries, the United States especially,
mais parallèlement, dans beaucoup de pays, les États-Unis en particulier, la sphère publique est dominée par la publicité. Elle est privatisée et il n'y a pas de culture de l'implication des citoyens, d'égal à égal.
Public involvement peer to peer. So the technology is not serving the end.
Donc la technologie ne sert pas les fins qu'elle pourrait servir. Et c'est un gros problème. Je pense que nous devrions vraiment réfléchir aux moyens de reconstruire un espace public. Récemment, un des phénomènes les plus intéressants a été Occupy Wall Street et les autres mouvements d'occupation. Et la raison pour laquelle ces mouvements ont été capables, si rapidement, de captiver, d'inspirer les gens et de gagner autant de soutien, c'est qu'ils ont vraiment revendiqué l'espace public.
Nancy Fraser dit cela en 2014. Depuis, si elle avait pris en compte, elle doit le faire aujourd'hui d'ailleurs, les fake news, la mentalité complotiste, le fait que personne ne croit dans les mêmes faits. Je me retourne vers vous, spécialiste de Kant, Maëlle Lecamp. Nous sommes dans un moment où c'est difficile de faire parler Kant. Hein. J'ai bien compris qu'il y a des siècles d'écart. Mais enfin, l'idéal d'une grande délibération collective qui monte en rationalité grâce à l'échange de points de vue, qui touche une rationalité où chacun peut être à un moment impliqué, donner son avis. On pourrait croire que les réseaux sociaux l'ont permis, mais là, vraiment, il y a de quoi être inquiet, non ? C'est pas vraiment le cas.
Oui, face au risque de la désinformation, je pense que Kant nous donne un outil qui, au fond, est transtemporel, qui dépasse les siècles. Et cet outil, c'est de définir ou de fonder l'espace public à partir d'une devise, à partir d'une maxime. Et il les énumère, il y en a trois des maximes de cet espace public. Il les énumère un peu plus tard, après notre texte de 1784, oui, dans la critique de la faculté de juger. Donc on est en 1790, et dans le paragraphe 40 de cette troisième critique, il énumère ce qu'il appelle les trois maximes du sens commun, dans lesquelles je vois un outil qui serait encore tout à fait d'actualité et qu'on pourrait utiliser contre les dérives d'une information fragmentaire, voire erronée. Ces trois maximes du sens commun, qui sont véritablement atemporelles, on peut les lire comme trois règles qui régissent au fond la communauté intersubjective humaine. La première de ces règles, c'est, dit Kant, penser par soi-même. La deuxième, c'est la plus importante pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est penser en se mettant à la place de tout autre être humain. Et la troisième et dernière de ces maximes du sens commun, c'est penser toujours en accord avec soi-même. Et si on revient sur la deuxième de ces trois, oui, maximes, qui est la plus importante, celle de la pensée ouverte, c'est une maxime, dit Kant, qui touche non pas tant à ce que nous connaissons ou à notre faculté de connaître, le vrai ou le faux, que à la manière de penser. C'est-à-dire, c'est une maxime qui concerne l'ouverture d'esprit d'un homme. Je le cite, « L'ouverture d'esprit d'un homme lorsqu'il est à même de s'élever au-delà des conditions subjectives d'ordre privé, mmh, du jugement, dont tant d'autres restent en quelque sorte prisonniers, et lorsque l'homme réfléchit sur son propre jugement à partir d'un point de vue universel, qu'il ne peut déterminer qu'en se mettant à la place des autres. » Fin de citation. Au fond, l'outil que Kant, peut-être le conseil, la devise que Kant nous donnerait aujourd'hui et qui serait toujours valable, c'est de penser par soi-même en étant capable de s'ouvrir à la pensée de tout autre possible, de tout autrui possible, c'est-à-dire d'être capable de s'élever à un point de vue universel, du point de vue de notre faculté de juger, c'est-à-dire juger comme si nous pouvions nous décentrer de nous-mêmes. Et je pense que cette maxime du décentrement et de l'ouverture à autrui est toujours d'actualité.
Et vous diriez qu'un des problèmes, c'est que techniquement on pourrait, mais souvent, le phénomène des réseaux sociaux fait qu'on pense un peu entre soi et on n'aime pas trop se confronter à un autrui qui pense de manière diamétralement opposée. Et ça a tendance un peu à fragmenter, comme des bulles, les réseaux, ce qui fait que c'est ce point, si je vous entends bien, Maëlle Lecamp, qui fait que ce n'est pas conforme à l'effort que vous venez d'évoquer, que Kant soulignait, l'effort de la publicité qui se confronte à quelque chose de conflictuel dans le rapport à autrui, mais qui maintient la discussion, etc.
Oui, le conflit a du bon, c'est-à-dire que la confrontation à la pensée d'un autrui qui penserait autrement que nous-mêmes, elle a du bon, elle est même un facteur de redressement, de correction de nos opinions, pour dégager à partir de ces opinions subjectives quelque chose comme un avis objectif, ou du moins un avis qui serait communément partageable. Donc je dirais que cette deuxième maxime du sens commun, elle est une devise ou une incitation, une injonction à résister à cette fragmentation de l'opinion publique. Et peut-être un deuxième point capital qu'on peut en tirer, c'est que cette deuxième maxime du sens commun, pensée donc en dialogue et en ouverture avec autrui, elle a le grand mérite précisément de n'exclure a priori personne.
Voilà.
Aucun homme n'est laissé pour compte, aucune classe ou catégorie socio-professionnelle n'est laissée ici hors du public au sens kantien, d'un public qui pense et qui s'exprime en faisant un usage non privé de sa raison, de sorte que Kant n'admet aucun extérieur, aucun homme n'est extérieur à cette sphère de l'espace public universel, de sorte que sa conception de l'espace public, me semble-t-il, présente à ce jour encore cet immense avantage d'être largement inclusive et même, je dirais, universellement en droit inclusive, puisque tous les hommes, potentiellement, peuvent y prendre place.
Là, vous nous servez une formidable transition pour introduire Oscar Necht, philosophe allemand, qui a été l'assistant de Habermas. Et je serais tentée de dire, je voudrais que vous nous le présentiez, Alexander Neumann, vous êtes son traducteur en français, même si le texte que nous avons, c'est un recueil de textes, il n'existe pas sous ce titre en allemand, l'espace public oppositionnel, qui a été publié en 2007, j'en ai parlé. Ce monsieur, Oscar Necht, a-t-il compris assez vite que l'idée de l'inclusion de tout le monde dans une grande délibération collective, qui était quand même l'idéal de Habermas, et du coup, le socle de sa critique, de médias qui ne font pas le boulot, etc. En fait, il y avait un problème plus profond. J'ai envie de dire, Oscar Necht, il avait lu Marx plus et avec plus de fidélité que Habermas ? Est-ce que c'est ça l'angle pour l'approcher ?
En tout cas, ça lui aurait fait plaisir de vous l'entendre dire, parce que c'était effectivement un grand lecteur de Marx. Alors, il faut préciser que Oscar Necht a disparu l'année dernière, donc il y a eu une série d'hommages à Francfort, où il a fait sa thèse avec Adorno, à une époque, tout comme à Paris d'ailleurs. Et ça lui aurait fait plaisir. Et de la même façon, il était très fidèle à l'héritage révolutionnaire de Kant. Et oui. Donc, quand il a quitté la faculté de Hanovre, Leibniz, il avait publié un essai, un peu pour laisser une trace, qui s'appelle Kant und Marx, Kant et Marx, pensés ensemble. Alors, pour tout de suite entrer dans ce débat, Habermas, dans son habilitation, là, dans les années 60, un peu agité en Allemagne de l'Ouest.
Pas qu'en Allemagne.
Oui, bien évidemment. Mais c'est là où le débat se déroule, à Francfort, et pose un constat, un diagnostic selon lequel ce serait la masse des non-propriétaires qui aurait envahi l'espace public classique, donc on va dire bourgeois pour rester avec Marx et Necht. Et c'est ça ce qui aurait en quelque sorte fait péricliter cette capacité délibérative de raisonnement public.
Je suis pas sûre de bien comprendre. Vous voulez dire que
oui, c'est une citation que je fais. Habermas dit de mémoire, je l'ai quand même un peu
potassé,
que c'est la masse des non-propriétaires, c'est l'expression, j'en suis sûr, qui a qui est arrivé sur la scène et qui fait que ça ne fonctionne pas selon le modèle classique du raisonnement des publics lettrés qu'on vient d'évoquer
ici. Chic et calme, voilà.
En quelque sorte des salons, en tout cas, ou même, pourquoi pas, du Parlement. Parce que dès lors qu'il y a, disons, mai 68, pour rester dans le cadre, dans le contexte, ben, ça fonctionne plus selon les règles classiques. Et en ce sens, je pense qu'il est en désaccord avec Adorno, qui n'était pas du tout contre la culture de masse, comme c'est parfois dit, mais qui était contre l'usage standardisé, stéréotypé par l'industrie de divertissement des médias, mais qui voyait d'autres usages possibles de la culture des masses. Et d'ailleurs, on le voit avec Internet, ça peut avoir des potentialités démocratiques comme ça.
Bien
ça
sûr,
peut
et ça en a eu d'ailleurs.
Et en ce sens-là, dire que le problème, c'est l'accès du grand public, disons, de la plèbe des prolétaires, à la délibération publique qui aurait créé le problème, ça, bien évidemment, c'est ça le point de clivage, le point de débat, où Adorno, d'un côté, puis son ancien doctorant Nicht, commence à être de plus en plus en désaccord. Ça va se décompter après 68.
Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose d'inclusif, mais autrement, notamment différemment de la manière dont Habermas l'avait imaginé, une délibération comme ça. Il va y avoir du tumulte, pour parler comme... comme Machiavel, c'est l'espace public, c'est pas calme. Hein. Et les médias de masse en font partie. Aujourd'hui, les réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose à penser autour, finalement, de ce que Marx a pensé. Car Marx a repris le combat de Kant à l'égard d'un nouveau roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, lorsqu'il était à la Gazette Rhénane dans les années 1840, pour la liberté de la presse, exactement avec les arguments de Kant. Et puis après, il s'est dit, mais au fond, ça ne va pas marcher comme ça. Enfin, c'est important, la liberté de la presse, il ne va jamais renier ses textes, Marx. Mais il faudra penser une chose qu'il a appelée la praxis. Qu'est-ce que c'est la praxis et qu'est-ce que c'est pour Oscar Necht, la praxis?
Alors, il avait des pratiques tout à fait variées. Il a créé une nouvelle manière de former les délégués syndicaux. Avant de devenir professeur à l'université lui-même, il a créé une école alternative où il n'y a pas de porte, ça circule, où il n'y a pas de notes après 68. Et il a eu toutes sortes d'autres pratiques encore qui débordent largement du cadre.
Par exemple
Les mouvements... écologique, il a créé une commune rurale où il a vécu avec toute une famille, enfin plusieurs amis, etc. Et vous voyez un peu l'ambiance
de 68. J'aime bien la description.
Et donc, bien évidemment, ça fait exploser le cadre académique. D'ailleurs, les séminaires étaient débordants à l'époque. Il n'y avait plus assez de place pour accueillir les...
Ouais. Donc il était pour
les étudiants
ce
qui s'y précipitaient
d'un espace public dont il faut assumer la part d'émotion aussi. C'est pas de la délibération froide, la part de brutalité. Alors bon, on a un exemple quand même. Hein. Écoutez cet extrait qui met en scène, enfin qui montre Jean-Paul Sartre en mai 68. En fait, on est le 1er juin 68. C'est assez croustillant dans la mesure où après coup, Sartre a un peu dit qu'il avait qu'il partageait l'idée de ce mouvement. Enfin, il a un peu fait oublier à quel point il a été lui-même extraordinairement chahuté. Écoutez, c'était à la Sorbonne.
Des lieux de travaux communs comme l'université actuelle, où les ouvriers, les jeunes ouvriers pourraient venir, des lieux de rencontre, des unités d'habitation communes, c'est-à-dire des cités ex-universitaires, largement ouvertes et qui deviendraient des cités de la jeunesse.
S'il vous plaît, pour la continuation du débat, nous pensons que l'ordre et le silence seront mieux établis si les questions sont posées par écrit, car de toute façon, nous ne pouvons pas circuler les questions, nous les transmettrons immédiatement à Jean-Paul Sartre. Merci.
Je m'objecte que ça n'est pas très démocratique, parce que, d'abord, Je ne sais pas qui a posé la question et je ne sais pas à qui je réponds. Tant pis, on va essayer de s'arranger comme ça. Est-ce que M. Jean Bolsard considère ce qu'on sait ensemble? Vous voyez, j'ai demandé moi-même qu'on ne pose pas les questions par écrit pour qu'il y ait un contact entre nous. Mais si vous gueulez tous quand on me pose une question, alors on est bien obligé de revenir au système écrit. Donc, soyez vous-même votre démocratie.
Ça patine, hein. Je suis sûre que ça vous fait rire. Moi, ça me fait rire. Mais vous, Alexander Neumann, spécialiste d'Oscar Neck, qui était pour un espace public oppositionnel, tumultueux, de non-maîtrise, et notamment de non-maîtrise par les intellos. Comment vous entendez ça?
Alors, non-maîtrise, je ne suis pas totalement sûr. Il fallait
loin.
Quand même une forme, mais laquelle? Donc, par rapport à Kant, sans entrer dans toutes les subtilités du débat, Kant, c'est quelqu'un qui a animé Necht depuis sa naissance, carrément. Il a appris, discuté dès le bac, ça lui a sauvé le bac, à Königsberg, la ville natale de Kant.
Ouais.
Donc, il était très près de ça. Donc, ouais. Il a vraiment vu les enjeux, les détails de ce débat. Et il disait le problème de Kant, c'est pas tellement qu'il fasse appel à la raison de tout le monde. Donc, il est pour maintenir le principe de raison dans le débat. Le problème, c'est que dire que ce sont les publics lettrés exclut d'office du modèle philosophique, un ensemble de
groupes. Mais on l'a dit, chez Kant lui-même, il y a plusieurs textes.
Oui, mais on voit dans le critère,
oui, parfois,
par exemple,
le pas,
que les travailleurs qui ne savent pas lire et écrire, ou même les paysans, qui sont la foule à cette époque, les enfants, les femmes, les étrangers et même les immigrés
de facto, bien sûr,
ne font
tout ça,
pas
tout
partie,
sont exclus, oui.
En quelque sorte, de la pratique de ce modèle philosophique. Raison pour laquelle on est obligé de faire sans. Et voilà une contradiction en mouvement,
que Marx
en quelque
avait comprise,
sorte. Voilà.
Et qui reste
et
le problème.
Donc, Necht essaye de résoudre en quelque sorte en inventant des termes après 68 comme l'espace public oppositionnel, c'est-à-dire les groupes qui ne sont pas représentés au Parlement, par exemple,
oui,
vont s'opposer, ou dans la rue, ou sous d'autres formes, qui peuvent être raisonnées,
oui,
et vont interpeller, revendiquer des nouvelles formes d'action démocratique, pas seulement d'interpellation.
Mais il était conscient du fait que, à la Sorbonne par exemple, en 68, et dans les autres universités européennes, il y avait surtout des enfants de classe supérieure. Le problème est encore bien plus aigu pour les campagnes, les ouvriers, et si 68 est un événement extraordinaire dans l'histoire, c'est parce qu'il y a aussi eu un mouvement social, ouvrier. Sinon, ce serait seulement de l'oppositionnel entre enfants de bourgeois, quand même, il faut bien le dire. À l'époque, les étudiants venaient d'un milieu bourgeois.
Sauf Oscar Necht, qui venait de la campagne, donc il avait une sensibilité particulière. Mais pour dire un petit scoop, Oscar Necht était à Paris en mai 68.
Ah.
C'était le correspondant de divers mouvements de la gauche socialiste de l'époque, dont les sigles n'existent plus dans le débat actuel, donc c'est pas la peine de les énumérer. Et il voyait bien que les étudiants exprimaient des insatisfactions, des limites aussi, des capacités de débordement, que les syndicats n'étaient pas en mesure de représenter dans leur routine régulière. Mais l'occupation de la Sorbonne, puis les heurts, ont déclenché quand même une crise que le mouvement des travailleurs, ouais, c'est-à-dire la grève générale, a saisi. Et ils voyaient ça comme une brèche.
Et puis être enfant d'eux n'est pas une destinée.
Ouais.
On peut
donc c'est
aussi
en quelque
ne pas
sorte,
être aussi bourgeois,
ouais,
que ses parents.
Donc en quelque sorte, il y a une dialectique, une interaction entre l'espace public bourgeois, civique, traditionnel, et puis cet espace public oppositionnel ou même prolétarien, en parlant d'une grande grève générale qui a eu lieu à la même époque. Mmh. Donc il essayait de conceptualiser à la fois cette pratique tout à fait débordante,
oui.
Mais tout en restant dans le cadre d'une théorie critique concise, hein, et d'une élaboration conceptuelle.
Clotilde Nouette.
Oui, en fait, je voulais juste peut-être un petit peu nuancer. Je ne pense pas du tout que la délibération chez Habermas se fasse loin du tumulte et qu'elle procède, comme d'ailleurs il le refuse justement, à la façon d'une calme discussion de séminaire. Ce n'est pas du tout ça. Habermas reconnaît complètement le fait que l'espace public implique du tumulte, que ça implique parfois même une grande brutalité, que ça implique des oppositions, des conflits, etc. Alors évidemment, il ne l'a peut-être pas suffisamment mis en valeur en 62, mais en 62, la critique qu'il adresse à Kant est marxiste. Il dit Kant, les limites du modèle libéral chez Kant, c'est le fait que Kant n'a pas pensé le substrat sociologique, social de l'espace public. Et donc, moi, en fait, j'aurais tendance plutôt à essayer de voir autrement le débat chez Habermas. Habermas, finalement, ce qui l'intéresse, c'est plutôt de se dire, une fois qu'il y a du conflit dans une société, quels sont les instruments que nous avons à notre disposition pour survivre à nos désaccords? Et avons-nous des moyens, à travers justement les formes de raison qui nous unissent, pas forcément de les dépasser, mais du moins de les réguler et puis de vivre avec d'une certaine façon, de trouver des arrangements malgré tout. Et la distinction, vous avez tout à l'heure évoqué la masse des non-propriétaires qui envahissent l'espace public et du coup causent sa dégradation.
Mais qu'est-ce qu'il veut dire là, oui.
Alors moi j'aurais une autre lecture, je pense que en fait à ce moment-là, Habermas au contraire il dit voilà, l'espace public bourgeois s'est ouvert finalement à toutes ces catégories d'individus qu'il avait exclus et le fait qu'il les avait exclus, c'est un problème. Et ce problème, Marx l'avait effectivement bien vu. Mais la question, c'est de savoir si la démocratisation, qui était le but, en fait, de cette extension de l'espace public, a eu lieu. Et là, je pense que la grande distinction à maintenir, c'est la distinction entre la masse et le public. Pour Habermas, et là, il reprend une distinction au sociologue américain Charles Mills, le public, ce n'est pas la masse. Le public, ça Certes. Doit rester un système de relations entre des individus qui ont entre eux des échanges communicationnel. Et ce n'est pas simplement la fusion d'un tout ou un collectif. Voilà.
Oui, le seul petit point de débat entre spécialistes de ces questions, c'est que la notion de public telle que Habermas l'entend, il a bien raison de dire que ce n'est pas la masse ou plutôt la foule, comme on le dit à partir de la fin du 19e siècle. Mais... Vous voyez, quand on revient à la notion de sens commun qu'évoquait Maïlo Kahn à propos de Kant, la notion de sens commun, la mentalité élargie, c'est un terme que Kant emploie dans la critique de la faculté jugée, Erweiterte Denkungsart, il faut que ça s'élargisse, qu'on se parle tous, etc. C'est pas que de la délibération. Chez Kant, d'ailleurs, dans la critique de la faculté de juger, c'est aussi des émotions esthétiques. C'est aussi c'est la notion de partage. Il y a de la rationalité pour Kant, il faut qu'il y en ait, mais ce n'est pas qu'une rationalité logique. Voilà. Et c'est vrai que Habermas a durci un peu autour de la rationalité logique, échange d'arguments, la notion de narration. Son dernier texte de 2022, Espace public, démocratie délibérative, un tournant. Il y a un seul paragraphe sur l'enjeu de la narration collective, des narratifs, comme on dit. Est-ce que vous ne pensez pas, si on se met à peu près d'accord sur ce petit problème habermasien, vous ne pensez pas, Maïlo Kahn, que Kant voyait plus large que ça? Le sens commun, c'était aussi au sens esthétique, des émotions, du visible. C'était ça le partage aussi pour Kant, pas que de la logique.
Assurément, la grande découverte, voire je dirais la grande invention de Kant, c'est de montrer que l'espace forme la racine de toute communication intersubjective possible entre les êtres, et notamment entre les sujets pensants que sont les hommes, quand il est question d'espace public, et vice-versa, que la communication forme la racine de l'espace. En d'autres termes, espace et communicabilité se co-constituent réciproquement chez Kant. Or, cette définition de l'espace communicationnel, si on veut anticiper, sur le mot à venir de Habermas, présuppose en amont une conception originale de la subjectivité, qui n'est plus la subjectivité comme sujet individuel ou singulier, mais bien comme sujet universel. L'espace public concrétise chez Kant ce lien étroit entre espace et partage, c'est-à-dire entre spatialité et communauté de commerce dynamique entre les êtres, c'est-à-dire un partage interactif de nos jugements, qui fait que, au fond, la conception kantienne de l'espace et du public, comme lieu de partage, de dialogue, d'échange d'idées, s'enracine, me semble-t-il, dans une invention kantienne qui est celle d'une subjectivité universelle qui va effectivement trouver à s'épanouir, comme vous le rappeliez, dans les trois sphères de sa philosophie. La sphère théorique, à travers nos jugements objectifs de connaissance, la sphère pratique, à travers le jugement moral, et la sphère esthétique du jugement de goût, à travers les jugements sur le beau.
Bon, cela dit, Oscar Necht, il aime bien Kant. Je pense qu'il a une vision de l'espace public qui n'est pas que la délibération logique et un peu logicienne de Habermas. Mais bon, s'il est marxiste, il sait bien que tout le monde n'aura pas la même part. Les classes sociales, ça existe. Et l'exclusion est une chose plus complexe que juste essayons de nous parler, de nous raconter des histoires en commun. Finalement, y a-t-il une solution pour Necht ?
En tout cas, il remonte à l'expérience historique et sociale qui traverse Kant à l'époque, qui est la Révolution française, ou la Grande Révolution, qui est même internationale, puisqu'elle touche pas seulement l'Allemagne, mais aussi par l'affranchissement ou le soulèvement des anciens esclaves d'outre-mer, d'autres classes sociales que ce qu'on voit à Paris encore, hein, parce qu'on parlait des paysans et des travailleurs. Et Kant, par exemple, se résout finalement à défendre l'émancipation des citoyens d'outre-mer dans le texte sur la paix, pour la paix perpétuelle, ce qui n'est pas souvent remarqué. Et Necht a ça en tête, c'est que l'émancipation passe bien évidemment par les travailleurs eux-mêmes, pour citer Marx, mais par l'ensemble des mouvements qui cherchent à se dire, à intervenir, à participer de façon directe à la démocratie. Et c'est là où il a un dialogue avec Nancy Fraser, qui reprend à peu de choses près le concept d'espace public oppositionnel quand elle parle de contre-public, pour dire le mouvement féministe n'est pas représenté dans la sphère traditionnelle. Mmh. Donc, elles, au sens, les femmes au pluriel, doivent se constituer en public pour apparaître en démocratie. Hein. Et d'ailleurs, il y a un désaccord aussi là-dessus avec Habermas à la même époque.
C'est une chanson du chanteur américain de soul Baby Huey, dont le groupe Baby
Huey, je ne suis pas sûre de la prononciation, and the Babysitters n'a produit qu'un album, sorti un an après la mort de ce chanteur. Il est mort en 70 et l'album est sorti en 71. Listen to me, ça veut dire time to get on up now. Rentrons tumultueusement dans l'espace public. Merci beaucoup Maëlle Lecan, Clotilde Nouette et Alexandre Neumann. Puisque nous avons parlé de partage dans l'espace public, c'est l'occasion de vous dire que Radio France est plus que prête à partager avec tout le monde et singulièrement avec les élèves qui préparent le bac en ce moment, 800 podcasts utiles sur 1000 sujets. Rendez-vous sur radiofrance.fr/sujet/réviser-le-bac. Je vous propose d'écouter maintenant la chronique de Frédéric Worms qui parle de la peur et des dangers générés par la peur. C'est le pourquoi du comment.
Comment traiter la peur de la peur ? La peur est un mécanisme utile et même nécessaire pour tous les êtres vivants. Elle est censée nous protéger contre un danger qui, sans elle, passerait inaperçu et nous détruirait sans même qu'on ait pris conscience. La peur est donc nécessaire. Mais on a raison d'avoir peur aussi de la peur. Que la peur se trompe d'objet. Si la peur se trompe, si elle me dit que, par exemple, ce bonbon n'est pas dangereux alors qu'en lui il y a un poison, ou le contraire, si elle me dit que ici il y a un danger mortel alors qu'au contraire c'est la condition de ma survie, alors je dois me méfier de ma peur. Et j'ai donc, en un sens, raison d'avoir peur de la peur. Ce n'est pas nécessairement un redoublement affolant, ce n'est pas nécessairement la source de l'angoisse, de la panique ou de la terreur, tous ces dérivés monstrueux de la peur elle-même qui deviennent des dangers absolus, indiscriminés et qui, au lieu de nous sauver la vie, nous empêchent de vivre. On a donc parfois raison d'avoir peur de la peur elle-même et de se prémunir des dangers au second degré, des dangers de la peur comme tel. Mais comment se prémunir de la peur de la peur sans tomber dans la panique absolue, sans avoir peur de tout, y compris de son ombre? Il faut d'abord remarquer que cette peur de la peur partage une caractéristique avec tout ce que j'appellerais volontiers le négatif en général dans la vie humaine. Le propre du négatif, c'est en effet de se redoubler justement, presque à l'infini, alors que le positif est tout simple. Par exemple, le plaisir est tout simple, on n'a pas le plaisir d'avoir plaisir, ou alors c'est qu'on a justement peur de perdre le plaisir. Par contre, le négatif se redouble toujours. On souffre, mais on souffre de souffrir, et on souffre de souffrir, de souffrir, et ceci à l'infini. Et la peur n'échappe pas à cette malédiction du redoublement du négatif. Oui, quand j'ai peur, j'ai aussi peur d'avoir peur, j'ai parfois honte d'avoir peur, j'ai honte d'avoir peur, d'avoir honte d'avoir peur. C'est à l'infini ce jeu de miroir terrible du négatif qui se répète et qui nous torture en quelque sorte par cette répétition même, alors que le bien est le bien purement et simplement, et le mal nous fait mal d'avoir mal. Et si nous sommes bien d'avoir bien, c'est déjà que nous ne sommes pas totalement bien dans le bien, c'est que nous avons un peu peur d'avoir mal. Alors comment cet indice peut-il nous aider à traiter la peur de la peur? Eh bien justement en assumant un redoublement, je dirais, et un seul. Il faut traiter humainement les peurs de la peur par la réflexivité humaine, d'abord en assumant psychologiquement, psychiatriquement aussi, cette expérience réelle de la peur, avec ses dangers, avec sa négativité. Il n'y a pas de raison de ne pas soigner les peurs excessives ou les peurs insuffisantes. Il y a donc une thérapie de la peur, et c'est bien normal. C'est bien normal de répondre aux dangers objectifs sur lesquels la peur nous alerte, mais aussi aux dangers subjectifs que la peur elle-même peut produire. Mais d'un autre côté, cette peur de la peur ne sera jamais arrêtée sans qu'il y ait une institution sociale, une institution collective qui délimite, qui institue les raisons objectives d'avoir peur, qui nous prémunissent contre des dangers objectifs et qui nous disent « bah le reste, vous pouvez y aller ». Tout ce qui n'est pas interdit, est autorisé, c'est la démocratie, alors que dans les tyrannies, on le sait, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, vous devrez avoir peur tout le temps. Non, délimiter la sphère partielle de la peur, les peurs inévitables, les peurs contre lesquelles on doit lutter, mais au-delà, permettre le plaisir, permettre la joie, permettre le bonheur, c'est cela le secret pour éviter le redoublement infernal de la peur qui nous empêche de vivre.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Axel Dubois, Chaïma Giboire, Armance Bourquin, Anna Fulpin et Nassim El-Kabli. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.
Vous êtes bien sur France Culture. Chaque matin, nous commençons la journée ensemble, avec nos invités, nos chroniqueurs, dès 6h30.
Jean-Lémarie.
L'information et la culture pour éclairer l'actualité.
Les matins de France Culture. Du lundi au vendredi à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le souffle de la pensée. Ce vendredi, l'anti-Œdipe de Gilles Deleuze et Félix Guattari.
Géraldine Mosna-Savoie.
À 18 ans, le traducteur, écrivain, éditeur Claro découvre le livre-événement de l'après-68, l'anti-Œdipe de Deleuze et Guattari. Corps sans organes, schizoanalyse, écriture rhizomatique. Comment cette lecture a-t-elle mis en route la machine de son œuvre littéraire? Il vient nous en parler.
Le souffle de la pensée, chaque vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.